Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Et cheers.
Cheers.
On trinque quand même, non?
Ouais.
Cheers, Sandra.
Cheers, Mina. Oui, ça vous plaît ou pas?
Moi, ça me plaît beaucoup. Ouais. Je trouve ça très frais, très bon. C'est assez salin, donc ouais. Ça donne envie de le boire.
C'est un rosé très léger, de pressurage direct. Ça veut dire quoi, pressurage direct, Julien, le pro du vin?
Bah non, mais en fait, c'est des. Je pense que c'est des pots, des raisins blancs avec des pots rouges, et qu'en fait, c'est juste pressé directement, et qu'en fait, ça ne macère pas du tout.
Il n'y a pas de macération.
C'est-à-dire qu'en fait, on ne fait pas. Il y a très peu de contact entre le jus du raisin et les peaux. Et
c'est
du coup, ça donne
ça.
Un rosé très clair.
C'est très clair, c'est très léger, mais en même temps, il y a une belle matière, un beau fruit.
Ouais, je sais pas ce que c'est comme cépage, mais ça dépend
du
cépage. C'est peut-être un pinot ou quelque chose comme ça.
C'est les deux cépages préférés de Mina, ouais. À savoir le pinot noir et
le gamay.
Et le gamay.
Pinot gamay, voilà. Ouais.
C'est ça que j'aime, ça.
Et on n'est pas très loin de chez toi, Sandra, parce que c'est un vin qui vient du sud de la vallée de la Moselle, mais c'est pas ce qu'on appelle les vins de Moselle. C'est un vin qui est en appellation Côte de Toul, mais hors appellation. Ouais. C'est un vin de France. Ça s'appelle l'Arbre Viquet. C'est un jeune vigneron qui s'est installé il y a 3 ans. C'est assez génial, hein, tous ces jeunes vignerons qui s'installent.
Yann Taillé.
Il s'appelle Yann Taillé, exactement. Et c'est pas cher, ça coûte 8,90€.
Ah ouais, c'est super.
C'est caviste. Ouais, enfin, c'est un peu notre caviste, mais là, de la rue de Chabrol, 63 rue de Chabrol, dans le 10e. Et c'est top, c'est propre en plus. Hein.
Ouais, c'est très bon, je trouve qu'il n'y a pas de défaut. C'est très agréable. Moi, j'aime bien ces vins où, en fait, qui sont des vins rosés, mais qui sont aussi des vins de table qu'on peut manger avec, on peut les servir en apéritif. Y a ce côté croquant un petit peu qui est très agréable. Hein, C'est bien fait.
Top, ça commence bien.
On passe à table ?
Yes.
Comment est votre blanquette ?
La blanquette est bonne.
Nous sommes réunis avec quelques amis pour un séminaire gastronomique.
Mange ma fille.
Avec du bon ?
Présenté par Mina Sundiram et Elvira Masson.
Show 8e, on est très heureuse de vous recevoir, Sandra Millenhausen et Julien Foin, parce que votre parcours à l'un et à l'autre nous inspire. Ouais. Parce qu'il est question de goût, d'amour de la bouffe et des produits, d'aventure collective, et surtout de quelque chose de très libérateur pour celles et ceux qui ont peur de se lancer. Il est question d'audace, de prise de risque et de réinvention de soi.
Sandra, tu as travaillé pendant 10 ans dans le marketing du parfum ?
Oui.
Et puis, tu as tout plaqué pour...
Tout plaqué. Ah, c'est pour ça, plaque.
Tout plaqué pour créer Plaque, une manufacture de chocolat Bean to Bar, avec ton compagnon Nicolas Rosier-Chabert. Et vous êtes quand même installé là où il faut être, à Paris, rue du Nil.
Pas rêver mieux,
ouais. Ouais, dans le 2e arrondissement.
Et toi, Julien, je t'ai connu journaliste, rédacteur en chef de Régal, magazine que tu avais créé en 2004, si je dis pas de bêtises.
Exactement, j'ai bonne
qui,
mémoire.
Qui, à l'époque, était hyper novateur. Puis t'as quitté la presse pour devenir restaurateur. Tu viens d'ailleurs d'ouvrir Cocotte dans le 4e arrondissement à Lyon. On va pas tarder à aller te rendre visite à Lyon.
Ouais, je pense.
T'es également éditeur et désormais fondateur et patron de Service Compris, une structure d'accompagnement de jeunes pousses de la food. Je sais pas si ça te convient comme appellation. Un genre d'incubateur, ouais. À resto ou à épicerie ou autre projet lié. Exactement, ouais.
Alors mon ami et partenaire avec qui on a créé la société, dont c'est le métier, dirait plutôt accélérateur, ouais, qu'incubateur. Il aime bien être pointu sur les mots, il a raison, parce qu'accélérateur, ça veut dire qu'on accélère le talent des personnes qu'on accompagne pour faire en sorte qu'elles émergent dans leur projet et éviter de faire les erreurs que nous, on a pu faire dans l'entrepreneuriat.
Tu vas nous raconter les erreurs que tu as commises,
ouais.
Et que tu évites à d'autres de reproduire.
Justement. Sandra, toi, tu es une dingue de cacao. Enfin, t'es du genre à passer tous tes week-ends à faire un bench, des pâtisseries, des chocolatiers et à faire des dégustations comparatives de grands crus.
Bah, ça, c'était avant. Hein. On n'a plus le temps maintenant.
Oui. Mais c'est ça, mais pourquoi tu es passée de l'autre côté ?
Parce que, c'était dans notre ventre, dans notre tête depuis longtemps. On avait envie de se faire plaisir, déjà, de faire ce qu'on kiffait, de faire quelque chose à deux, et d'avoir notre projet, en fait, et de travailler pour nous. Et de travailler dans ce qu'on aimait, et c'était le chocolat et le cacao. Et on s'est dit, on va faire le nôtre, ça sera le meilleur moyen de nous faire plaisir avant tout.
Marre du marketing ?
Alors... pas vraiment marre du marketing, mais effectivement marre de tous ces process, marre de mettre du temps à prendre des décisions, marre de faire des compromis, envie d'être beaucoup plus fidèle à ce qu'on pense, à ce qu'on est, voilà. Et c'est surtout ça, mais aucun regret, aucune critique de ce que j'ai fait avant, mais envie de passer à autre chose, dans une autre étape.
Pourquoi le chocolat?
Le chocolat, bah, c'était une passion. On a 20 ans, 20, 30, même 30 ans de dégustation derrière nous. J'ai toujours mangé une demi, voire une tablette par jour. Voilà, j'ai commencé au Nestlé, hein, comme tout le monde, Nestlé dessert. Et puis, je suis montée au fur et à mesure en gamme. Et puis, à chaque fois qu'on franchit une étape, on ne peut pas revenir en arrière. Et effectivement, quand j'ai découvert le Bintou Bar avec Nicolas, on s'est dit non, mais c'est ça qu'on doit faire et c'est ça qu'on va faire et c'est notre chocolat. Et en plus, on veut être dans la rue de nos rêves, rue du Nil, parce qu'on était des consommateurs de la rue du Nil. Voilà.
Et justement, dans l'aventure, tu es tombée sur Julien et tu as fait appel à ses services. C'est ça?
Exactement. Alors, je ne suis pas tombée sur lui. J'ai vu l'annonce, la news dans le Fooding. D'ailleurs, c'est via le site du Fooding. C'était la première saison exactement de Service Compris. On a vu ça avec Nico et on s'est dit, voilà, nous, on se sentait armés sur le côté marque, communication, identité. Ça, on savait ce qu'on voulait. Dans le chocolat aussi, on se sentait armés parce qu'on était accompagné par quelqu'un de très expert. Par contre, sur le côté logistique, restauration, process, etc. On se sentait complètement perdu. Et donc, on s'est dit, il nous faut ça. Donc, c'est beaucoup Nico qui, à l'époque, lui, travaillait déjà plus en entreprise et moi, était encore en entreprise, qui a mené le projet, qui a vendu son projet à Service Compris. Je crois que c'était assez... J'aurais voulu le voir, je ne l'ai pas vu.
Ah, il fallait pitcher quand même.
Ouais, il a pitché. Et il y avait 60 projets pour la première saison.
Et Julien, comment tu as...
Encore maintenant, en fait, c'est très simple. Hein, Service Compris, c'est on remplit sa candidature sur Internet, sur notre site. Nous, on décrypte d'abord l'ensemble des dossiers qu'on reçoit. On les analyse. On est plusieurs à voter en fonction de tout un tas de critères.
Et des sessions
qui sont...
de candidature.
En fait, il y a des sessions de dépôt de candidature à chaque fois. Donc là, la quatrième, elle est en cours et elle a lieu jusqu'au 9 octobre. Donc on dépose un dossier. Nous, après, on épluche ces dossiers. Éventuellement, on appelle les gens si on a besoin d'avoir des précisions ou pas. Et puis, on en sélectionne une dizaine, une douzaine, une quinzaine, ça dépend. Et après, on a deux jours de jury où dans les membres du jury, il y a des chefs, des restaurateurs, un avocat, des critiques gastronomiques. Voilà. Enfin, on essaye d'avoir un jury très éclectique, assez mixte. Et là, on écoute pitcher les projets pendant 10 minutes, un quart d'heure. On leur pose des questions encore 10 minutes. Et à la fin, on note tous et on sélectionne. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Donc oui, il y a eu un pitch, je me souviens très bien du pitch de Nicolas, qui est, je pense encore aujourd'hui, le plus chiadé qu'on ait eu.
C'est une presse, quoi.
Et en fait, c'était un peu son métier aussi. Donc
oui,
il nous a fait...
Il était directeur commercial d'une agence, donc il savait vendre, très bien vendre, vendre les
d'une
projets.
D'une agence de conception graphique.
Voilà, exactement.
Mais c'était très... Il y avait déjà des logos, des belles images, une belle présentation. Donc ça donnait vraiment envie. Et puis c'était un projet... le Bintou Bar, moi j'en avais un petit peu entendu parler, mais je voyais pas véritablement ce que ça pouvait être réellement, en tout cas dans le projet qu'ils voulaient mener, parce que quand on dit Bintou Bar, on dit on va prendre les fèves et puis on va en faire le chocolat. Donc je connaissais quelques chocolatiers lyonnais, notamment originaux, qui faisaient encore ça en France.
Le plus grand, c'est Bernachon, c'était un des premiers à faire du Bintou Bar.
Exactement, mais il y en a très peu, enfin à ma connaissance, il y en avait très peu en France. J'ai découvert avec eux qu'il y en avait un peu plus, mais pas de cette nouvelle génération et pas de la manière dont on pouvait le faire. Donc le projet était top. Voilà. Pour nous, en tout cas, il y avait vraiment une matière à travailler qui était extraordinaire. On a un peu hésité parce que c'est vrai que notre savoir-faire, c'est plus la restauration. Mais on a quand même... On a quand même travaillé beaucoup avec Jacques Génin à un moment de notre vie. Moi, quand j'étais journaliste, j'ai rencontré quand même beaucoup de chocolatiers. Et puis, tenir un commerce, c'est tenir un commerce. On avait des gens autour de nous. On savait qu'on pouvait les accompagner au mieux pour essayer de réfléchir à leur projet.
Alors justement, à quel moment, Julien, tu t'es dit avec tes associés qu'il manquait une structure pour accompagner ce type de projet?
Alors, nous, on a... c'est notre parcours déjà personnel. Parce que moi, je suis aussi, comme Sandra, je suis un reconverti, en fait. Moi, j'ai changé de métier à 38 ans pour devenir restaurateur. Je pensais que ça allait être simple, ça a été très compliqué. Physiquement,
plus compliqué que tout ce que tu pouvais imaginer.
Ouais. Beaucoup plus, parce que je pense que j'étais un peu orgueilleux et présomptueux. Je me disais, je connais bien les restaurateurs. Ça fait 5 ans que je dirige un magazine gastronomique. gastronomique, que je mange 4 fois par jour, que je connais tous les chefs, ils vont m'aider, ça va être simple, je sais exactement ce que je veux faire.
Personne ne m'accède.
Et en fait, après, je me suis aperçu que c'était vraiment un métier très complexe, avec beaucoup de détails, beaucoup de choses, et on a quand même ouvert pas mal d'établissements, et à un moment, je pense qu'il y a l'âge où on s'est dit, bah voilà, on a quand même pas mal de choses à transmettre, et il n'y a aucun organisme qui existe aujourd'hui pour accompagner des gens dans l'entrepreneuriat. Des incubateurs, il y en a plein, dans plein de domaines d'activité, et Romain Amblin, qui m'a proposé ce projet-là, lui avait fait ça pendant 5 ans de sa vie, c'est-à-dire qu'il avait accompagné dans un incubateur, Nouma, beaucoup de start-up, mais plutôt dans la tech. Il est passionné par la restauration. Il avait lui aussi un petit restaurant en province. Il s'est dit, mais Julien, avec tout ton réseau, ton expertise, on devrait monter un accélérateur pour aider les entrepreneurs à se lancer. Et au début, j'ai un peu hésité parce qu'on a quand même pas mal d'activités. Puis je me suis dit, non, c'est génial parce qu'on a des choses à transmettre. On a un réseau, on a des choses à aider. Et moi, j'aime bien transmettre, j'aime bien aider. Je pense que c'est une des choses essentielles dans ce métier, c'est la transmission de savoir. Donc, c'est hyper agréable d'accompagner des gens et de voir le résultat après. C'est un peu, c'est égotique, mais c'est un peu nos bébés aussi, d'une certaine manière, même si c'est leur projet à 100%, nous, on s'implique pas au-delà de ce qu'on peut faire. C'est eux, c'est leur projet, mais quand même, c'est hyper excitant de voir des choses sortir de terre, quoi.
Et depuis que tu as fondé Service Compris, tu as accompagné combien de...
Alors, on a accompagné 5 à la première saison. 4 à la deuxième saison, parce qu'il y en a un qui est parti...
Ah oui, c'est trié sur le volet quand même.
Donc, il y en a un qui est parti très vite. Oui, on en sélectionne que 5, pas plus, parce qu'on peut pas en accompagner bien vraiment sûr. Plus si on veut bien le faire, en fait. Voilà. Et puis, sur la troisième saison, il y en a eu 4 aussi. Après, il y a toujours, entre le moment où on commence l'accélération et la fin, des gens qui s'aperçoivent que c'est trop dur. Ah. Et on est là aussi pour ça. Enfin, nous, c'est pas notre plaisir. Le plaisir, c'est qu'on arrive à aboutir à tous les projets. Mais il y en a qui arrêtent en cours de route. Il y en a qui arrêtent au début. Il y en a qui ne vont pas au bout. Il y a des couples d'entrepreneurs qui se défont parce qu'ils s'aperçoivent au fur et à mesure qu'ils y arriveront pas. Donc, au final, la meilleure saison était la première, le Sandra, où en fait, les cinq ont ouvert. Et certains avec beaucoup de succès. Et je pense qu'ils auront tous du succès. En tous les cas, les 5 qu'on a accélérés au début marchent vraiment bien. Il y a Petit Bao, il y a Panda Panda, voilà, à Paris, qui marche très très bien, qui vont ouvrir leur deuxième affaire après à peine un an. Donc ça veut dire que c'est un vrai succès, quoi.
Et pour ouvrir la deuxième affaire, ils font de nouveau appel à toi, comme toi précisément, tu as scalé, comme on dit dans jargon marketing. Alors, il y a d'autres écueils que ceux de la première adresse.
Alors c'est là où je dis que c'est un peu sentimental, c'est que nous, au début, dans le contrat qu'on a un peu établi avec nos jeunes accélérés, ou jeunes ou pas jeunes d'ailleurs, mais ceux qui se lançaient, on a dit on vous suit. Ça dure 4 mois, on fait du mentoring et puis après, ciao, on se revoit une fois de temps en temps, mais pas trop. Et en fait, on peut pas s'empêcher d'y aller, de continuer à donner des conseils. Quand ils nous appellent, la ligne est toujours ouverte, en fait. Donc, on continue à avoir des coups de téléphone régulièrement. Est-ce que t'aurais ceci? Est-ce que t'aurais cela? Est-ce que tu peux m'aider pour ceci? Donc, c'est uniquement à leur bon vouloir. S'ils nous demandent un conseil, on leur donne. Après, ils nous écoutent ou ils nous écoutent pas. Quelquefois, ils nous écoutent pas, d'ailleurs, et ils ont peut-être raison. C'est leur propre expérience d'entrepreneur après.
Ouais. Voilà. Oui, ils peuvent ne pas être d'accord avec vous.
Exactement, ils ont toujours le libre arbitre. Mm-hmm. Nous, on considère... On a monté une dizaine de restaurants, nous, en 8 ans. Donc, on a fait des écueils, on a eu des vraies réussites, et puis on a fait des erreurs. On a des affaires qu'on n'a pas réussi vraiment à maintenir ou qui n'étaient pas dans notre ADN. Donc, on a vu beaucoup de choses, et puis on a fait pas mal d'expériences différentes. On a fait du fast casual du déjeuner, on a fait une boulangerie, on a fait une pâtisserie.
Du fast casual du déjeuner.
C'est-à-dire qu'on a fait ce qu'on appelle les fast good aujourd'hui. On a fait pas mal de concepts différents, quelquefois pour d'autres, pour nous, en gérance. On a fait des bars à cocktails. On a fait des bars à vin, donc on a fait de la cuisine un peu haut de gamme avec des chefs étoilés. Donc on a quand même une expérience assez large dans la restauration qui nous permet, je pense, d'avoir du recul.
Moi, je trouve ça assez marrant parce qu'on a remarqué quand même qu'il y avait de plus en plus d'initiatives, un peu d'entraide dans ce milieu. Tu parles d'accélérateur, on a aussi parlé d'incubateur. Récemment, je ne sais pas si vous avez entendu parler du restaurant In The Love For Food.
Oui, bien sûr.
C'est un restaurant d'incubateur de chefs. C'est des chefs qui vont se succéder. Il y en a 3 par mois. Il y a une espèce de charte à respecter. Saisonnalité, sourcing, prix constant, anti-gaspillage, fraîcheur des produits. Dans le genre, d'ailleurs, ici, à Grande Contrôle, on a la résidence.
Oui, c'est ça. C'est vraiment c'est un mouvement super positif.
On a été approché, puis on a travaillé avec à la fois la résidence un petit peu, et puis avec on les a rencontrés, les deux d'ailleurs, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de synergie. On peut faire des choses en commun. On a proposé aux gens qui passaient par ces endroits de nous contacter après s'ils voulaient avoir une accélération pour ouvrir leur propre business, parce que c'est vrai que c'est pas parce qu'on tient un restaurant pendant un mois éphémère qu'on est prêt après à ouvrir. ça nous donne le goût ou ça nous donne pas le goût. Mmh. Après, nous, dans l'accélération, on a quand même 70 heures de formation, on a de la théorie, on a de la pratique, on va à Rungis, on va voir des chantiers, on rencontre des avocats, on rencontre des juristes, on rencontre des architectes, on rencontre des décorateurs, on rencontre des cuisinistes. Donc, ça, quand je dis que c'est un métier complexe, parce que Sandra a pu s'en apercevoir, c'est hyper complexe. Ouais. C'est, ça demande de
c'est hyper polyvalent, quoi. Voilà. Sur tous les sujets, effectivement.
Hyper et, technique.
Et
quoi.
Tout le back-office, en fait, dont on ne se rend pas compte, effectivement, comme tu dis, des cuisinistes, des, voilà, des choses
des
sur
normes.
La logistique, voilà, des normes de sécurité,
normes.
D'hygiène, le recrutement, enfin, qui est clé, voilà.
Ça, c'est chaud dans le recrutement.
Mmh. Ouais, l'humain, ça, on a eu une super session là-dessus, sur, effectivement, comment gérer tout ça et quelles sont les normes, comment ça se passe. Enfin, voilà, beaucoup de choses qui ne sont pas dites et qui ça fait du bien d'entendre et de discuter.
On évoquait Mina La Résidence, qui est le restaurant pérenne en dur à Grand Contrôle de, du Réfugié Festival.
Ouais.
Et justement, en ce moment, à La Résidence, c'est le chef Aïssam Karajay qui tient les cuisines. Il vient de Syrie et ça tombe bien, il va nous apporter à manger. En attendant, on écoute Sandra Pulp.
Common People.
Yes. At St. Martin's College, that's where I caught her eye. She told me that her dad was loaded. I said, in that case, I'll have room with Coca-Cola. She said, fine. And then in 30 seconds time, she said, I wanna live like common people. Do whatever common people do. Wanna sleep with common people. I wanna sleep with common people like you. Or what else could I do? I said, oh, I'll see what I can do. I took her to a supermarket. I don't know why, but I had to start it somewhere. So it started there. I said, pretend you got no money. And she just laughed and said, oh, you're so funny. I said, yeah. I can't see anyone else smiling. Are you sure? You wanna live like common people. You wanna see whatever common people see. Wanna sleep with common people. You wanna sleep with common people like me. But she didn't understand. And she just smiled and held my hand. I went to the flagship of the shop. I cut your hair and get a job. I smoked some facts and played some pool. Pretend you never went to school. And still you never get it right. It's when you're stop it, oh yeah. Hello Aïssam.
Hello, bonjour.
Bonjour. C'est toi qui nous nourris aujourd'hui ?
Oui, avec grand plaisir.
On a beaucoup de chance.
Merci, c'est moi.
Donc, qu'est-ce que tu nous as apporté ?
Ok, j'ai apporté un plat. Maintenant, c'est spécialité, c'est le friquet.
Ouais.
Ça, c'est de blé vert fumé. Et là, on fait avec... moi, en fait, j'ai mélangé le technique que j'ai appris en France... avec la recette traditionnelle en Syrie. Donc, par exemple, en Syrie, on ne met pas d'oignon sauté. Mais là, j'ai fait ça pour vraiment absorber les épices, infuser bien. Et ça, j'ai appris ici en France. Et là, je trouve que ça donne plus de goût des épices, de cumin, de curcuma, piment d'Espelette.
Oui, c'est hyper parfumé, hein.
Oui.
Et la texture du friquet est géniale. Hein.
Oui, ça c'est...
En fait, c'est une sorte de blé qui est récolté avant pleine maturité.
Exactement, c'est brûlé avant culté. Après, c'est cassé dans les machines. Et après, c'est cuit comme le... À peu près, on peut dire, comme le risotto.
Là, tu l'as cuit façon risotto, par
oui.
absorption.
Parce que là, ça absorbe deux fois le poids de liquide.
D'accord.
Donc, ouais, ça boit beaucoup
délicieux.
De l'eau, beaucoup de brouillon.
T'en penses quoi, Sandra ?
La petite sauce, là, le petit...
Ça, c'est le sauce labné. Mmh. Ça, à la base de yaourt, on dit yaourt grec, c'est yaourt méditerranéen. Donc, c'est assez citronné. Et j'ai mis plus de jus de citron, j'ai mis de piment d'Espelette et j'ai mis l'épice de zaatar.
Oui,
zaatar,
c'est ça,
vert.
Le sang ça, le
ouais, exactement. Et aussi, il y a une pâte de piment très fort, comme le harissa. Et là,
et
je
la
mixe
grenade.
Tout. Grenade, bien sûr, grenade, ouais. Donc, avec les légumes, on a fait avec du poulet de shawarma, parce qu'à la résidence, on a un plat aussi très connu, le shawarma. C'est le wrap, comme les kebabs, mais à la façon syrienne, franco-syrienne, on peut dire. Et il y a aussi, une fois, on a fait avec le paleron de bœuf.
Ça va être bon,
ouais.
Ça.
Là,
on a la version végétarienne.
Voilà, on a le... Ouais, exactement. C'est et là, il y a les grandes courges aussi.
Donc c'est beau, c'est bon, c'est équilibré,
oui.
C'est végétarien et c'est plein d'oméga 3.
Oui.
Grâce aux graines de courge.
Exactement.
Là, je dis des conneries.
Non.
C'est plein de bons gras.
Oui,
c'est bon, tout simplement.
C'est tout
des
simplement
amandes,
bon.
Oui. Des amandes torréfiées avec du beurre clarifié qui ont du ghee, samené en arabe.
Pendant encore combien de temps on peut goûter son plat à la résidence ?
Ça, on a fait ça il y a maintenant 3 semaines, je crois. On a testé toujours. On a la carte qui j'échange et on a un plat de moment. Donc là, ça passait comme plat de moment avant le Food Temple. Et après, on a testé à Food Temple et c'était très bien passé. Tout le monde. Il y a quelqu'un qui revient après. Elle dit j'ai mangé ça hier.
Il revient.
Oui. Et oui, donc ça c'est...
Et toi, on peut goûter ta cuisine syrienne, mais aux accents et à la technique un peu française.
Exactement,
jusqu'à
exactement.
Quand, à la résidence ? Tu restes là jusqu'à quand ?
Je reste jusqu'à décembre.
Génial.
Parce que j'ai passé 3 mois, et il reste 3 mois, c'est ça le concept, 6 mois d'incubation. Après, je réfléchis comment lancer mon projet professionnel.
Bah justement, tu pourras faire appel à
voilà.
Julien.
Donc,
tu veux t'installer à Paris ?
Oui. Donc, je suis en train de réfléchir parce que des fois, je dis, je veux bien faire un traiteur franco-syrien pour les événements, etc. Des fois, je dis non, je commence avec quelque chose comme la résidence dans un endroit bien animé avec des activités comme Ground Control. Et maintenant, je suis en train de juste réfléchir, faire le avantage, défaut.
Et une adresse de street food syrienne pour Mina, non ?
Oui.
C'est une bonne idée.
Oui, c'est ça en fait.
Ça
en fait,
plairait.
Je veux bien ramener les recettes, même les street food syriens, même
ben, le shawarma,
les recettes.
Le shawarma, c'est un peu ça.
Oui, exactement. Le shawarma, c'est street food en Syrie.
J'adore ça.
Et friquet, par exemple, non. Ça, c'est un plat qu'on mange juste chez nous. Ça, c'est les recettes des mamans. Mais par exemple, tous les légumes au-dessous, ça c'est le côté français. C'est, normalement, c'est juste de blé comme ça avec de viande, avec poulet. Et à côté, il y a le yaourt avec concombre. Et donc là, j'ai pensé de l'amener, on fait quelque chose infusé avec des épices.
Donc là, vraiment, ça, c'est un exemple de mariage entre la cuisine syrienne et les techniques
françaises. C'est un mariage heureux. C'est un mariage réussi.
Merci beaucoup, Aïssam.
Merci à vous. Merci.
Tu nous as régalé. On revient te voir bientôt.
Merci bien.
Donc là, on est parti loin, loin, loin. On est parti en Syrie.
Oui.
On a quelques petites questions.
Un petit quiz pour vous connaître un peu mieux, tous les deux.
Justement, votre plat du bout du monde préféré,
Julien?
Oula, plat du bout
du bout du monde, pas le plat du coin de la rue, quoi.
Alors, moi, je suis un fan absolu, mais parce que je crois que c'est un des voyages qui m'a le plus marqué, du Japon. Donc, j'aime beaucoup la cuisine japonaise, mais ce qui me fascine dans la cuisine et de la culture japonaise, c'est leur capacité à faire toute leur vie exactement la même recette, ce qui n'est pas du tout dans notre culture à nous. J'ai goûté des choses extraordinaires au Japon. J'ai un souvenir marquant de ce qui a été un peu galvaudé chez nous, mais des yakitori, qui sont des petites brochettes qu'ils font, et notamment des brochettes d'aba. Parce qu'on parle de la Syrie, j'en profite parce que je sais qu'aussi dans ces cultures-là, on travaille les abats et là-bas, c'est peu connu. Les Japonais, on pense tout de suite au sushi, au poisson, au sashimi, mais en fait, ils adorent les abats et ils cuisinent les abats. Et j'ai des souvenirs d'avoir mangé comme ça à Tokyo des petites brochettes grillées sur un mini barbecue dans la rue, parce qu'ils sont aussi adeptes de street food, sous un métro aérien, et j'ai un souvenir extraordinaire de ça.
C'est drôle, oui, comme le lieu et le moment comptent autant que.
Bien sûr, c'est ça. Sandra?
Je crois que c'est l'Italie, en fait. C'est pas le bout du monde, mais c'est l'Italie, c'est tous les plats italiens, et en fait aussi les petits ragoûts de viande avec les pâtes. En fait,
sauce ragoût.
Ils cuisinent la viande en fait pendant des heures et des heures et des heures, et j'ai goûté des choses fantastiques. Donc c'est plutôt ça, moi, le bout du monde, c'est l'Italie pour moi.
Ton plat terroir préféré?
Moi, c'est les riz de veau. J'ai une passion pour les riz de veau, mais vraiment, je suis capable de... L'autre fois, il y en avait... je suis allée au Vivant 2, ils n'en avaient pas à la carte, mais d'un coup, j'entends le serveur exceptionnellement, on a des riz de veau ce soir, j'ai dit je les réserve.
T'es devenue folle.
Vraiment, je trouve que c'est fantastique. Et j'adore au Baratin, chez Coretta, enfin, il y en a dans beaucoup d'endroits à Paris.
C'est vrai qu'il y a beaucoup de chefs qui cuisinent le riz de veau, paradoxalement, alors qu'on s'imagine que c'est pas un produit hyper facile d'accès. Non. Et toi, Julien?
Alors moi, c'est difficile de choisir, hein, parce que j'en ai plein. Je pense bien sûr plutôt aux plats mijotés, moi, si je pense à des plats de terroir. Et c'est vrai que dans la cuisine, je pense plutôt à la France, hein, je pense plutôt à notre culture. Et c'est vrai que dans la culture française, les plats mijotés, c'est souvent des plats à base de viande, la plupart du temps. Et je pense à une bonne daube, en fait, un paleron, un bon paleron braisé très très longtemps. Moi, j'aime bien cuire avec des anchois, j'adore faire ça, anchois, paleron, le mélange un peu.
Terre-mère
avec des petites carottes. C'est extraordinaire.
Tu sers avec des coquillettes, tu sers avec quoi?
Coquillettes, ou moi j'aime bien la bonne pomme de terre vapeur avec ça, je trouve ça extraordinaire. Une bonne sauce bien liée, là, c'est fantastique, avec un petit peu au-dessus. Ou alors un plat italien, un ossobuco avec la gremolata, parce que j'adore ça, la gremolata, je trouve ça super. Voilà. Bon.
On rappelle ce que c'est, la gremolata, c'est un mélange d'écorce,
d'agrumes. C'est plutôt agrumes, alors généralement c'était plutôt du citron, du zeste de citron haché très finement avec de l'ail et du persil plein.
Qui est le condiment qu'on sert traditionnellement avec le sobuco, qui est magnifique. Une grosse tuerie. Recette anti-blues du dimanche soir, Sandra?
Les petits pots de crème.
Trois tablettes de chocolat.
Non, les petits pots de crème au chocolat. Voilà. Et là, on le propose chez Plaque et c'est ma recette. C'est vraiment le plat doudou qui a le goût de chocolat, mais en même temps le goût de crème. Un petit pot de crème au chocolat. Et ça, on peut voir deux, quoi.
Julien, en quatre
coups de mou. Écoute, moi, j'ai une tradition avec mes enfants, c'est que le dimanche midi, je fais souvent un super poulet rôti. Ils adorent ça. Et donc, je fais mon bouillon après. Donc, quand je récupère la carcasse, et je fais un vrai bouillon. Et le soir, je fais des petites pâtes dans le bouillon, des petits vermicelles.
C'est anti-blues.
C'est un peu régressif, mais j'aime bien ça.
Tu ne jettes jamais une carcasse et jamais des parures de poisson?
Ça m'arrive de le jeter, parce que de temps en temps, mes enfants ou même moi, j'ai pas envie de manger un bouillon. Mais sinon, je le congèle, je garde, mais rarement, je jette rarement. Ouais. J'aime bien faire les bouillons. Ouais.
Sandra, ta Madeleine de Proust, du chocolat?
Là, c'est. Et c'est un peu le. J'appelais ça la reine de Saba quand j'étais plus jeune. Mais en fait, c'est avec de la poudre d'amande. Hein. C'est plutôt un gâteau au chocolat, mais avec de l'amande. Et là, d'ailleurs, on en fait un, du coup, un moelleux aux amandes. Mais c'est ça. C'est un espèce de doudou, exactement, qui me rappelle l'enfance, l'amande, le chocolat, la douceur.
Julien.
Alors je sais pas, Madeleine de Proust, je sais pas ce que vous entendez par Madeleine de Proust, c'est un souvenir d'enfance ou c'est un truc auquel on est accro complet? Parce que moi, accro, c'est le chocolat. Hein. Je suis quand même pour le coup.
C'est plutôt la nostalgie, ouais, la nostalgie de l'enfance. Non, bah, c'est pas si lointain.
Ah, je sais pas si j'ai vraiment une nostalgie de l'enfance. Mon père faisait souvent un plat hyper simple qui était des pâtes au thon. C'est un truc tout bête quand on c'est la recette de placard, mais tu vois, du bon thon, bah, sa tomate, ça. Des petits oignons revenus, une bonne pâte.
Et ça, voilà,
bon,
ça, c'est un truc, madame,
c'est un, moi, c'est un truc que je continue à faire de temps en temps, mais.
Et voilà. Pour finir,
bah, tu nous as donné la réponse.
Ouais.
Plaisir coupable.
Voilà.
Plaisir coupable, c'est ça.
Le chocolat.
Moi, c'est la chantilly. En plus, c'est du chocolat. Ouais, vraiment.
Ah ouais, double peine. Ouais. T'es vraiment atteinte.
Ah, il
toi.
Faut, quand on a du chocolat, parfois c'est assez intense, ça prend vraiment une force en bouche. Et de le couper avec de la chantilly, de la crème, je crois que c'est la crème en fait.
J'ai l'idée de couper avec la chantilly. Ouais. Tu sais, comme si la chantilly était un truc léger.
Léger,
qui permet de couper
ouais, c'est ça.
Voilà.
Sandra, ça ressemble à quoi, Plaque? Tu viens d'ouvrir il y a quelques jours.
Oui. Il y a une semaine, on a ouvert. Bah, Plaque, ça ressemble, c'est un peu un lieu atypique. C'est en même temps, oui, ça se veut quand même être une marque et une manufacture de chocolat. Ça ressemble à nous, à Nicolas et moi. C'est vraiment notre chocolat avant tout. Et c'est notre histoire de vie, de couple et d'aventurier. Un peu culotté aussi, comme le cul de Plaque, parce qu'il faut prendre des risques et on n'a pas beaucoup de backup. Donc, on s'est lancé à fond dans l'aventure, à fond personnellement, à fond professionnellement. Donc, ça ressemble à une toute
vous
petite
n'avez pas levé de fonds.
On a la banque et on a un investisseur. Si un tout petit investisseur, on pouvait pas. Si on avait que la banque pour un projet plus petit, si on n'avait pas été rue du Nil, on aurait réussi. La rue du Nil a demandé un peu plus de fonds. C'est tout petit, c'est une toute petite manufacture, mais on fait tout là-bas. On fait ça devant les yeux, le nez, la bouche des passants de la rue du Nil. On fait notre chocolat tous les jours à partir de la fève et on voulait faire pas que des plaques de chocolat. Donc c'est du chocolat en plaques, mais du chocolat en pâtisserie, en gâteau et en boisson. Donc ça nous ressemble à nous et puis ça ressemble à beaucoup de chocolat.
Est-ce que, comme le disait Julien, tu as eu envie d'abandonner parce que c'est quand même une reconversion assez, assez particulière?
Courageuse,
t'as eu envie, ouais, très courageuse. Tu as envie de tout plaquer.
Oui, il y avait. Non, mais il y avait vraiment. Alors, c'est pour le coup, Plaque, c'est pas du tout un rapport avec tout plaquer, mais c'est comme ça qu'on appelait un peu les tablettes de chocolat avant. On disait aussi plaque de chocolat, mais effectivement, ça fait. Il y a beaucoup de jeux de mots et tout le monde s'amuse et
c'est
assez
drôle.
C'est
très tentant,
hein, faut dire. Ah bah oui. Alors là, il va en avoir peut-être quelques-uns. On va se laisser tenter pour la Saint-Valentin ou des choses comme ça. Mais oui, on avait envie. Combien de fois on rentre le soir en disant j'en ai marre, encore cette décision. Ça me correspond pas, ou j'ai envie de faire mon truc. C'est surtout j'ai envie de faire. C'est pas renoncer à quelque chose, c'est vraiment aller vers quelque chose. Donc oui, il y avait cette envie là. Après, je l'aurais jamais fait toute seule. On avait besoin d'être deux. Nicolas m'a donné cette liberté et ce courage qu'il a pris. Et voilà. Donc c'est quelque chose à deux, effectivement.
Pour revenir sur ton chocolat, il est quand même hyper pur. Il y a du cacao, du sucre de canne.
Et c'est tout.
C'est tout.
Voilà. Exactement. Dans le chocolat noir, c'est vraiment la méthode et la philosophie Bean to Bar puriste jusqu'au bout.
On rappelle peut-être juste que vous dire Bean to Bar. Bean, c'est la fève.
Bean,
et bar, c'est la tablette.
C'est la tablette. Exactement. Donc, c'est de la fève à la plaque. En fait, ça veut tout dire et rien dire en même temps parce qu'on peut se dire que tous les chocolats sont faits comme ça. Hein. Tous les chocolats sont faits à partir de. Mais la plupart du temps, il y a tellement d'intermédiaires. Là, on fait tout nous-mêmes, de la fève à la plaque. Et c'est ça le plus important. Et il y a cette envie d'être complètement puriste parce qu'on pense que dans la fève, il y a tout. Tous les arômes sont déjà là, toute la richesse aromatique. Et pourquoi rajouter quelque chose ? Donc le sucre vient juste arrondir ou révéler la douceur ou la force de la fève. C'est plus dur à travailler, c'est plus long. Mais pour nous, le résultat est extraordinaire et il n'y a pas besoin d'ajouter de lécithine de soja, de beurre de cacao en plus ou quelconque vanille ou quelconque pointe de sel. En tout cas, dans la recette du noir, il n'y a que deux ingrédients.
C'est plus compliqué techniquement.
Ah oui, techniquement, c'est plus dur parce que ça glisse moins dans les machines. C'est donc plus long et c'est plus dur à tempérer. Typiquement, pour la dernière étape pour le chocolat, c'est le mettre en plaque ou le mettre en tablette pour qu'il soit brillant. et qui se conserve et bien aussi en texture en bouche. Ça s'appelle le tempérage. Ça veut dire faire monter et descendre le chocolat en température pour que tous les cristaux du beurre de cacao naturellement contenus dans la fève se rangent bien ensemble et fassent cette texture lisse. Et ça, en fait, c'est beaucoup plus facile quand il y a plus de beurre de cacao ou de la lésitine de soja. Donc, à chaque fois, on doit re-régler notre tempéreuse. À chaque fois, on doit essayer. Si vous nous entendez crier, c'est qu'on n'y arrive pas et qu'on recommence. Mais c'est génial en même temps parce que chaque cacao est différent, parce que chaque fève est différente et à chaque fois, on redécouvre des choses.
Julien ?
Oui, non, je tiens à préciser quelque chose. Moi, j'ai été voir le chantier au début. C'est que tout est fait sur place. Ce qu'elle ne dit pas, c'est que dans le principe de bean to bar, c'est pas simplement qu'on part de la fève. C'est que, bon, ils ont une attention vraiment très particulière à la sélection de leur fève parce que ça part de matière première. Mais surtout, ils font tout sur place. C'est-à-dire que si vous allez rue du Nil, vous allez voir la fabrication du chocolat. Et ça, c'est assez extra.
On voit ça et on voit ta pâtissière en train de préparer sa babka en même temps. Quoi.
Exactement,
cuisine ruche.
Exactement. Et ça se veut comme ça. Et ça se veut être un peu un joyeux bordel. Mais on a voulu ça. Et on voulait sortir du secret aussi. Ouh là là, le chocolat, c'est quelque chose de secret. Non, en fait, on voulait le montrer. Donc là, on a beaucoup produit en août, porte fermée, avant d'ouvrir. Et là, on va reprendre les batchs de chocolat la semaine prochaine. Donc on pourra vraiment faire goûter même le chocolat dans la machine en train de se faire à tout le monde. Et ça, c'est notre rêve, en fait, de montrer ça et de vivre dedans toute la journée.
Il n'y a pas une petite pression, je me demandais, une petite pression de s'installer rue du Nil ?
Si, et effectivement. Mais après, nous, on se sentait vraiment bien dedans, dans le sens où ça fait, on habite dans le 9e depuis très longtemps, et on venait tous les week-ends faire notre course rue du Nil. Donc déjà, on était bien. On connaît tout le monde, même si chez Terroir d'Avenir, ça, bien sûr que les personnes tournent, etc. Mais on connaît la plupart des vendeurs, le poissonnier, le boucher, le primeur. Donc on se sentait déjà bien en tant que client.
Familial.
Et on est exactement.
Ouais,
c'est très facile. C'est le marché. C'est ouvert, c'est comme des halles, et ça, c'était important pour nous. On avait la pression de se dire, le projet déjà même dans l'architecture, dans les matériaux, dans ce qu'on voulait, on voulait pas être dissonant avec la rue. Fallait vraiment être dans la rue et être humble aussi par rapport à cette rue, parce qu'on vient s'installer là. Il y a quelque chose, il y a un esprit et il faut le respecter et il faut s'y intégrer. Et effectivement, il y a une pression et la pression, c'est de faire tous les jours les meilleurs produits. Et moi, je préfère justement qu'on soit à la fin de la journée en rupture et faire du frais qu'en faire trop et commencer à justement faire des concessions sur et la fraîcheur et le sourcing. Donc, un peu de pression, mais positive. On prend tout positivement de toute façon. Donc, voilà.
Avant la plaque, avant la tablette, il y a la fève.
Oui.
La fève, tu ne vas pas la chercher toi-même. Tu t'es aidé par quelqu'un.
Oui.
Une experte.
Nous, on s'est entouré d'internationale. Exactement. Elle s'appelle Chloé Doutre-Roussel. Elle est très connue dans le monde du cacao, mais moins dans le monde du chocolat en France. Parce
qu'elle est sourceuse. Sourceuse en fèves.
Elle est sourceuse et experte, en fait. Elle connaît tous les cacaos fins du monde, parce qu'on est dans le domaine des cacaos fins. Et elle nous met en relation, justement, avec les meilleurs terroirs et les meilleures fèves, en fonction de ce qu'on lui demande aussi.
Tu travailles avec trois plantations, c'est ça?
Exactement. Alors, pour l'instant, on travaille beaucoup avec deux destinations du Venezuela, que sur une des deux on y est allé et l'autre, Chloé fait partie.
Donc
de toute
une
façon.
Absolument mythique.
Exactement, le Chuao. D'ailleurs, je vous ai amené une plaque de Chuao pour que vous la goûtiez, bien sûr, et qu'on la goûte ensemble, qu'on la partage.
Mais je croquerais bien un morceau de Chuao dès maintenant, moi.
Ah ouais.
Tant pis, quitte à parler la bouche pleine, c'est pas grave. Hein, foutu pour foutu. Autant se faire plaisir. Chuao, c'est une île.
Alors c'est presque une île. En fait, c'est au bord de l'eau. C'est pas une île, mais effectivement, comme on peut y aller. C'est tellement long par la route pour y aller qu'on y va par barque. C'est au bord de la mer des Caraïbes, dans le nord du Venezuela, à 4 heures de route de Caracas, alors qu'en fait, c'est vraiment pas loin. Mais le Venezuela, c'est un pays compliqué aujourd'hui. On y est allé l'année dernière, en avril. Et effectivement, c'est magique parce que c'est un cacao qui est cultivé par... Donc, il y a 150 personnes dans la coopérative et tout le monde vit autour du cacao. Il y a beaucoup plus d'ailleurs de femmes que d'hommes. Ils font ce cacao, ils cultivent le cacao, ils le récoltent, ils le font fermenter, ils le font sécher de la même façon depuis des années. Et en plus, comme c'est au bord de l'eau et assez isolé, ça n'a pas du tout pu être pollué par d'autres variétés de cacao. Donc, effectivement, c'est un cacao.
On t'écoute, hein, c'est pas parce que ça croque qu'on t'écoute pas, t'inquiète pas.
Donc, voilà. Donc, c'est un peu une explosion aromatique. C'est quelque chose qui reste longtemps en bouche. C'est assez acidulé. Mais Julien va nous en parler. C'est un expert du chocolat.
Mais c'est dingue de chocolat, toi.
Ah oui, moi je suis un malade. Et je peux en
manger. Le hasard fait bien les choses, non, là.
Je peux aussi en manger une tablette tous les jours. Moi, ce qui me fascine sur ce chocolat, mais en règle générale, pas que sur cette variété-là, mais leur chocolat, c'est la puissance et la longueur en bouche. Je pense que pour beaucoup de gens, quand ils goûtent ça, ils ont l'impression de jamais avoir goûté du chocolat.
Pas faux.
C'est-à-dire que tu découvres autre chose, en fait.
Une complexité,
t'as une palette aromatique, mais hallucinante. T'as des fruits rouges, t'as toutes ces notes tertiaires, un peu champignons et tout, sous-bois, mais très délicates, c'est pas du tout entêtant. Moi, je trouve ça magnifique, quoi. En fait, on a l'impression de découvrir quelque chose de... les arômes, on a l'impression d'être très dans la terre, quoi. Il y a quelque chose de très terrien.
Très primaire, très forêt primaire, un peu, quoi.
Qui est incroyable, quoi. C'est végétal, même. C'est très végétal, mais le bon côté du végétal, c'est très agréable.
Donc ça, c'est du cacao pure origine, 100% chuao. Qu'est-ce que tu fais d'autre ?
Alors, on a une autre destination du Venezuela, le Pintao, Rio Caribe, qui est aussi un peu plus, qui est au nord, aussi au bord de l'eau. Et on a le Pérou aussi. On a trois destinations, enfin trois origines du Pérou, parce qu'on y est allé aussi cette année, là, en mars de cette année. Et on aime beaucoup... en fait, nous, on aime bien les cacaos acidulés, fruités. Et c'est vrai qu'au Pérou et au Venezuela, c'est ce qu'on a trouvé. Pour l'instant, en fait, pour se laisser guider dans notre gamme, on s'est dit, on se fait avant tout plaisir à nous, donc on fait comme ça. Et au Pérou, on a dans le nord, il y a Piura, et on a deux, en fait, ces marrons crus qui sont espacés juste par 2 kilomètres et une rivière, et ils n'ont rien à voir l'un l'autre. C'est vraiment, c'est exactement, pour les Français, ça peut être facile de comprendre le cacao, c'est comme le vin. On peut avoir deux parcelles à 2 kilomètres d'écart, ça n'a rien à voir. Donc, il y a vraiment ça. On a le grand Yapatera et le grand Nativo, qui sont des cacaos très floraux, très légers. Les gens pensent parfois que c'est du lait en les goûtant, tellement il y a une légèreté et une subtilité. On a le Ucayali aussi du Pérou. Et ensuite, on a une destination où on n'est pas allé, c'est Belize. Donc, c'est en Amérique centrale et il s'appelle le Maya Mountain. Et celui-là est absolument aussi fabuleux. Et c'est celui qu'on utilise pour la plupart de nos pâtisseries, parce qu'il est à la fois acidulé et rond, bien cacaoté. Donc, il marche très bien en ganache, en cuisson, en fondant, en tarte. Et d'ailleurs, je vous en ai amené.
Ça fait rêver, Maya Mountain. Moi, je goûterais bien un petit gâteau Maya Mountain.
Je vous ai apporté... alors, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est la tarte au chocolat avec ganache et nougatine de gruée.
Attends, on commence par Julien, parce que...
Voilà. Moi, je ne vais pas vous en laisser.
Il y a le fondant aussi. Il y a le fondant au chocolat sans farine. Ça, c'est super, parce que, à la fois, c'est génial pour le goût, mais ça s'adresse aussi à ceux qui mangent sans farine. Et on a aussi la babka, donc la brioche au chocolat. Je sais que tu es une adepte.
Moi, je suis très fan. Ouais.
Donc voilà. Vous pouvez
j'ai goûté aussi ton cookie tout chocolat.
Il y a aussi le cookie
incroyable.
Tout chocolat.
Pendant que Julien se goinfre, je vais poser un peu la question qui fâche. Le cacao pose beaucoup, beaucoup de questions environnementales, des questions de responsabilité sociale. Comment tu les as abordées ?
Alors nous déjà, la première chose, c'est qu'on fait du cacao fin, donc du cacao de spécialité. Si on connaît par exemple déjà beaucoup, de plus en plus, le café de spécialité, nous c'est la même chose. Donc quand un prix mondial du cacao est à 1 ou 2 euros le kilo, nous on le paye 5 à 10 fois plus cher. Et effectivement, on a très très peu d'intermédiaires, vu qu'on est quasiment en direct avec les coopératives. Il y a généralement un intermédiaire qui est le sourceur. Et on s'assure effectivement que la chaîne est vertueuse, que tout le monde est payé au juste prix, et en aucun cas nos cacaos sont en culture intensive, on n'est que sur de l'agroforesterie. Donc il y a un respect pour la planète dans la culture du cacao et un respect pour les gens dans la façon dont ils sont rémunérés. Mais c'est sûr que par contre on fait venir les sacs de cacao de loin. Donc ce qu'on essaye de faire, donc il y a une empreinte carbone, c'est sûr. Il y a du bateau et du camion. On ne fait pas d'avion.
Pas d'avion.
Et par contre, là-dessus, on essaye de regrouper, nous, parce que les sacs de cacao, on essaye de les regrouper et pas tous les faire venir un par un. Et on essaye de faire venir une palette.
Mutualiser.
Exactement. Mutualiser. Donc on attend, parfois ça attend à Amsterdam pour arriver, parce que ça passe beaucoup par Amsterdam. Donc voilà, on essaye là-dessus d'être responsable et de faire le moins possible.
Julien, toi non plus, tu n'es pas venu les mains vides.
Jamais, Julien, jamais les mains vides. Enfin, je suis venu sans chocolat quand même.
Mais du chocolat pour les oreilles, on va dire, c'est ça.
Oui. Moi, j'ai choisi un titre de Lou Doyon, parce que j'aime beaucoup sa voix. Ange au démon, Devil Angel.
D'accord, c'est qui le démon entre nous deux ?
Bah, c'est toi, évidemment. Moi, je suis le bon Dieu sans confession.
quite understand why we love to carry on wars as we do. And I haven't yet opened the doors that your bullets are already flying through. And I wish you'd stop claiming you surrender. Lay down the guns if you do. You accuse me of standing guard, but wouldn't you? Honey, you're so quick to skip from praise to slander. Devil or angel, I'm no one, no the other. And I'm sorry if I disappoint you. So and I'll never know where to stand when all your hell breaks loose. And I haven't yet said a word that retaliation troops are on their way. And I wish you'd stop claiming you surrender. Lay down the guns if you do. You accuse me of standing guard, but wouldn't you? Honey, you're so quick to skip from praise to slander. Devil or angel, I know one, know the other. I'm sorry if I disappoint you. So
Julien, c'est l'écologie qui t'a conduit à l'alimentation également.
Ouais, bien sûr, mais d'ailleurs, moi, je suis assez surpris parce que moi, j'ai été journaliste environnement de la conférence de Rio, donc 92 jusqu'en 2002, une conférence de Johannesburg où j'avais suivi les deux à l'international. Et à l'époque, j'avais arrêté un peu cette presse environnementale parce que je trouvais que ça avançait pas vite ou pas du tout. Et quand on est médiateur et qu'on transmet, on est un peu vite désespéré ou alors on devient schizophrène. Et là, je m'aperçois maintenant que il n'y a pas un seul des projets qu'on accélère chez Service Compris ou de gens qui candidatent chez Service Compris qui n'ont pas ce prisme RSE, comme
compliqué.
On dit aujourd'hui, ces responsabilités.
S'ils ne l'avaient pas, d'ailleurs, tu les accompagnerais sans doute pas.
Bah,
non
alors nous, on a un prisme dans Service Compris où on a même des workshops où on donne des informations. Il y a pas mal de choses sur le recyclage des déchets, sur la manière enfin, il y a beaucoup de choses à dire et il y a énormément de choses à faire dans la restauration pour s'améliorer. On peut pas tout faire, mais on essaye de faire le mieux et nous, on dispense beaucoup d'informations là-dessus. Il y a de plus en plus de startups qui font des choses très très bien, Mais ce qui est assez impressionnant, c'est qu'ils viennent déjà avec cette idée-là. On n'a pas besoin de les convaincre. Ouais. Ils viennent en disant, bon, c'était le cas bien sûr de Sandra et Nicolas, mais d'autres.
Bah, ça donne de l'espoir un peu, non ?
Oui, oui, ça donne de l'espoir. Après, moi, je dis souvent, il y a la théorie. Il y a ce qu'on veut faire, et puis il y a la mise en pratique. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est les faits. Ouais. Et donc, parce qu'on a quand même vécu beaucoup de greenwashing, beaucoup d'entreprises qui disent on fait ceci, on fait cela, on voit des 4x3 partout, des pubs et tout. Et en fait, moi, à un moment, ce qui m'intéresse, c'est les actions. C'est pas de le dire. Je préfère des gens d'ailleurs qui ne disent rien, et il y en a dans la restauration qui ne disent rien et ouais. qui font, plutôt que des gens qui disent beaucoup et qui font peu. Ouais. Et voilà, moi, on a fait plutôt partie de cette école-là où on essaye d'avancer pas à pas. On n'est pas parfait, mais on fait au mieux que possible. Je pense comme Plaque le fait ou comme d'autres. Et voilà, et au fur et à mesure, je pense qu'on peut s'améliorer, et c'est en écoutant les autres, en regardant ce que font aussi les autres, les expériences, et c'est ça, service compris. C'est-à-dire que nous, on donne beaucoup de notre temps et on transmet beaucoup, nous et les experts avec qui on travaille, mais il faut savoir qu'on apprend aussi beaucoup des gens qui arrivent chez nous. C'est-à-dire que quand nous, on voit Plaque arriver à faire ce qu'ils ont à faire, nous, après, on apprend d'eux, on apprend de leur expérience. Ils arrivent, ils ont eu aussi une vie avant, soit entrepreneuriale, soit professionnelle. Ils arrivent avec leurs compétences, et c'est très enrichissant ces échanges.
D'ailleurs, tu nous disais en préparant l'émission que ça t'avait, toi et tes associés, totalement reboosté.
Ah bah bien sûr, ça nous a donné, bah déjà nous on est des créatifs, donc c'est vrai qu'on peut pas ouvrir 10 restaurants par an, mais comme là on en voit beaucoup passer entre nos mains et qu'on voit beaucoup de choses se créer, c'est très excitant de sentir qu'on peut plus ou moins influencer ou donner des tuyaux pour dire bah tiens, tu peux aller voir telle personne ou faire ceci, peut-être que ça marchera mieux comme ça. Et en échange, ils nous apprennent aussi des choses, parce que je dis, il y a beaucoup d'échanges et ils échangent entre eux. Il y a vraiment un phénomène un peu d'université, on a un Slack qu'on partage et ils partagent tous des choses entre eux, et ça c'est génial de voir que tel projet Panda Panda a donné son graphiste à Tartelette de la saison 2 à la saison 3 ou de la saison 1 à la chouette. Saison 2 ou 3, et c'est chouette. Il y a vraiment un phénomène de qui fonctionne entre eux et qui nous plaît beaucoup.
Pour qu'on comprenne bien ce qu'est service compris, peut-être que tu détailles un tout petit peu.
Parce que j'ai l'impression que tu fais beaucoup de choses.
Il n'y a pas que l'accélérateur de particules.
Ouais. Non, alors
il y a trois facettes.
En fait, le service compris est la base. L'idée, c'était de faire de la formation. Donc, il y a différentes façons de faire de la formation. Et on est parti des gens qui voulaient changer de vie, exactement comme Sandra ou comme d'autres, comme moi, j'ai pu l'avoir faire. À un moment de notre vie, on dit, on va peut-être pas faire carrière et le même métier toute notre vie. Et c'est vrai, de plus en plus de jeunes générations et qui arrivent à un moment qui disent j'ai plus envie de travailler dans des bureaux. On a énormément de gens qui avaient fait qui sont passés par service compris, qui avaient travaillé dans la banque, qui travaillaient dans la communication, qui avaient fait HEC, qui avaient fait des grandes écoles. On en a beaucoup qui viennent nous voir et qui nous disent moi j'ai envie de mettre les mains dans le cambouis d'une certaine manière. Et donc déjà la première chose qu'on fait, c'est qu'on leur dit il y a de l'idée au projet. Tu te poses la question avant de démissionner, est-ce que tu es vraiment prêt. Donc on a créé un MOOC en fait qui pendant 6 semaines s'achète en ligne, c'est pas très cher, c'est moins de 400 €, et en fait c'est le MOOC sert à se poser toutes les bonnes questions. Donc en fait il y a des petites vidéos, il y a des pitchs, ils vont chercher, et en fait on les aide à se dire c'est de l'idée au projet, je continue à être salarié, j'ai envie de changer de vie mais je suis pas sûr, j'ai envie de me lancer mais je suis pas sûr. Avec ces 6 semaines de formation, une fois qu'ils sortent de ces 6 semaines, ils savent. Normalement, ils savent. Après, il faut bosser. On a un Slack, on échange, on se lance ou on se lance pas. Une fois qu'ils se lancent, qu'ils ont décidé de se lancer, il faut 3 conditions pour rentrer dans l'accélération, qui sont hyper importantes, et ça on a pu le voir, parce que je pense que des personnes n'ont pas été au bout parce qu'elles n'avaient pas rempli ces conditions-là. La première, c'est qu'il faut être 100% disponible. Parce que créer une entreprise aujourd'hui, Sandra pourra le dire, c'est pas 100% de son temps, c'est 200% de son temps. C'est-à-dire qu'on arrête de se dire qu'on se lève à 9h ou à 8h et qu'on termine la journée à 18h. Non, c'est 24-24, on n'arrête jamais et ça va continuer longtemps, parce qu'entreprendre, ça prend beaucoup, beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, et c'est toute notre vie. Donc déjà, il faut être disponible à 100%, on peut pas le faire à moitié, un pied dans un boulot, un pied, je vais démissionner, mais je suis pas sûr, il faut être disponible. Après, il faut avoir un vrai projet qui tient la route. C'est-à-dire que si on a juste une petite idée, mais qu'on ne sait pas vraiment ce qu'on veut faire, ça ne fonctionne pas. Il faut savoir vraiment ce qu'on a envie de faire à fond et être vraiment passionné par son projet. Et la troisième condition, c'est qu'il faut avoir de l'argent. Parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas mentir, vous ne pouvez pas monter un projet si vous n'avez pas d'argent. Donc, il y a une petite nouveauté cette année, d'ailleurs, dans l'accélération, c'est que chez Grande Contrôle, on a un projet qui sera incubé. C'est-à-dire que Grande Contrôle, pendant 6 mois, va prendre un des projets qu'on accélérera chez un service compris. Génial. Et ça, c'est génial parce que ça leur évite d'acheter un fonds de commerce. Et ça coûte quand même très cher, un fonds de commerce. Donc, ils peuvent se mettre le pied à l'étrier. Comme tout à l'heure, on a vu les gens des réfugiés qui viennent et qui ils ont une résidence ici qui pendant 6 mois leur permet de tester leur modèle économique, ça c'est super. Et puis la troisième partie, là elle s'adresse plutôt aux gens qui ont déjà monté leur restaurant, nous par exemple, nos propres restaurants à nous ou d'autres, des confrères, et ont fait des formations. Et là c'est de la formation continue. Donc dans plein de domaines d'activité, notamment on parlait de l'écologie, on a une formation sur le RSE, on a une formation aussi sur dupliquer son affaire. Par exemple, si Plaque demain dit, bah voilà, j'en ai créé un, mais si je vais en faire 2, 3, 4, je me pose la question, est-ce que je vais le faire en franchise, est-ce que je vais le faire en propre, comment je vais le faire, comment je vais créer l'outil pour le dupliquer. On a des formations là-dessus. On a des formations
plus pointues.
On a des formations très pointues sur le vin, notamment le vin nature. Voilà, qu'est-ce que c'est que la différence entre un vin nature et un vin biodynamie, ou alors des choses commerciales, hein, comment mieux vendre le vin à des clients pour mieux l'expliquer. Enfin voilà, on a des formations classiques et moins classiques.
On a vraiment pensé à tout. Hein.
On n'a pas pensé à tout parce que je pense qu'on essaye de partir de notre expérience et ça s'améliore tout le temps. Mais en tous les cas, on essaye de faire des formations courtes qui durent 3 heures. Comme nous, on est restaurateurs à côté, on sait qu'on a peu de temps. Donc on veut que les gens profitent de ces formations pour que ça soit vraiment utile, qu'ils aient une vraie formation et qu'ils aient appris quelque chose derrière.
Sandra, qu'est-ce qui te rend le plus heureuse là maintenant, à une semaine, 10 jours après l'ouverture?
C'est quand les gens reviennent, parce qu'on en a déjà, et ça c'est hyper gratifiant. Quelqu'un qui revient, qui dit, oh là, j'ai goûté là ce matin, il y en a un, il est arrivé, il a dit, quoi, il y a pas de flan? J'ai dit, oh non, en fait c'est que le vendredi, samedi,
attends,
dimanche.
Le flan tu nous l'as apporté? On l'a pas
le flan là. Non, c'est que le samedi, le vendredi, samedi, dimanche, et même sur le chocolat pareil, il y a des vraies révélations. Il y a beaucoup de gens qui nous ont acheté, oui, le Chuao parce que ils le goûtent. En fait, ce qui est aussi génial, c'est qu'on fait goûter et du coup, effectivement, ben, c'est par le goût que les gens reviennent. Hein, de toute façon, voilà. Donc, on avait envie de faire quelque chose de beau parce que c'est important visuellement que ça soit beau, mais le plus important, c'est effectivement le goût. Et effectivement, là, ce qui nous rend le plus heureux, c'est quand les gens arrivent et disent, bah, je reveux ça parce que j'en ai goûté, j'ai adoré, ou je veux goûter autre chose parce que voilà.
Et moi, la tarte, je reveux ça. c'est quoi cette tarte de folie?
Alors, c'est une pâte sucrée avec quelques inclusions de chocolat moulu dedans, après une ganache avec notre chocolat et par-dessus du gruet de cacao. Oh, voilà. Donc le gruet de cacao, c'est l'éclat de la fève, c'est et une nougatine, voilà.
C'est dément ça.
Et tu fais aussi un sablé farine de blé, oui, classique, et farine d'épeautre ou de corasson.
De sarrasin torréfié. Exactement. On en fait un au blé de population classique et un où on mixe le blé de population et la farine de sarrasin torréfié de l'atelier Soba, d'ailleurs, qu'on aime bien à Paris. Et ça donne... Moi, j'adore l'association sarrasin chocolat. Je trouve que ça donne quelque chose de fabulé. Et le sablé, ouais.
En fait, t'es bretonne, t'es pas allemande du tout.
Bah ouais, je crois que effectivement, j'ai pas grand chose d'allemand.
Julien,
par mon nom.
T'arrives à ne pas t'envoyer la tablette en entier?
J'ai du mal, mais je me raisonne. Ouais, je suis raisonnable. J'essaie d'être raisonnable.
Moi, ça m'épate les gens qui prennent juste un petit bout. Ouais. Et...
Non, je prends pas un petit bout.
C'est pas trop ton genre, ça.
Non, pas du tout. Moi, c'est la tablette ou rien.
Qu'est-ce que c'est bon et c'est malheureux, l'émission touche déjà à sa fin. C'était un grand bonheur de vous avoir tous les deux, merci beaucoup.
Merci.
Merci.
Merci également à Aïssam Karachay de La Résidence, merci à Mathilde Giraud et Denis Lega de Ground Control pour votre confiance.
Et Pierre-Alexandre Perrin, derrière la console. Pour écouter l'émission, vous pouvez la retrouver sur SoundCloud, iTunes Podcast, Magellan ou sur le site grandcontrôleparis.com.
Bye.
Bye.
Au revoir.
Chaud.
Chaud.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.